Recto verso.
Bonsoir et bienvenue.
Alain Maillard.
Le souffle du désert, c'est un film qui nous emmène en voyage, non seulement dans les dunes de Tunisie, mais aussi dans l'exploration de l'identité masculine. Ce sont 13 hommes qui s'interrogent sur eux-mêmes, accompagnés par un thérapeute et par une caméra. Le cinéaste, c'est vous, François Colère, bonsoir.
Bonsoir.
C'est votre cinquième long métrage documentaire. Vous êtes d'origine neuchâteloise, âgé de 50 ans. C'est un film qui pose notamment des questions sur la place d'une caméra dans une expérience intimiste. Nous y viendrons un petit peu plus tard, mais j'aimerais d'abord commencer cet entretien en votre compagnie. Alexis Burgère, bonsoir.
Bonsoir.
Cette démarche thérapeutique qu'on découvre dans le souffle du désert, c'est à ça qu'on va s'attacher maintenant. Vous êtes donc, vous, médecin, psychiatre et psychothérapeute. Vous êtes formé à diverses méthodes de traitement. Vous avez 51 ans. Quel sens a pour vous un tel voyage d'une dizaine de jours dans le désert ?
Ben, la première chose, c'est que c'est une occasion extraordinaire qu'on peut s'offrir, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de prendre du temps pour soi. Donc une occasion qu'on peut s'offrir pour se poser des questions, réfléchir et échanger sur ce qu'on appelle être un homme. Comment on le vit, comment d'autres le vivent, les choses qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer devant autrui. C'est se donner un cadre, c'est se donner un temps hors du temps, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on sort de notre habitude pour consacrer quelque chose à notre recherche personnelle en tant qu'homme.
Donc c'est vraiment se mettre dans un cadre différent, loin du cadre habituel, c'est ça l'essentiel.
Oui, en l'occurrence, le fait d'aller dans le désert, en soi, ça nous met dans une situation un peu particulière parce qu'on est coupé de toutes nos distractions habituelles, on ne pense plus au programme télé, on ne pense plus aux tâches quotidiennes, etc. On est dans un cadre qui nous dépayse, et il nous dépayse à toutes sortes de niveaux d'ailleurs. Mais ce dépaysement en soi est très très propice à se poser des questions, à voir des choses en soi, à donner de l'importance à des choses en soi que dans la vie quotidienne, on laisse passer parce qu'il y a tellement de bruit de fond que voilà, c'est perdu là, dans le bruit de fond.
Parce que vous-même, dans votre expérience de psychothérapeute, Alexis Burgère, vous faites souvent du travail de groupe ici en Suisse également. Vous voyez que les choses avancent plus vite avec les gens quand on est dans un cadre comme ça, comme le désert ?
Alors, c'est pas valable pour tout le monde. Le travail de groupe est extrêmement efficace pour un certain type de recherche, pour un certain type de gens aussi. C'est clair que quand on va dans le désert avec un groupe comme ça, on va pas soigner des grosses pathologies comme on peut le faire en hôpital ou dans certains contextes en ville. Mais on choisit un groupe de gens qui sont prêts à se lancer, à prendre des risques, à s'interroger avec une certaine audace quand même, puis qui sont aussi prêts à se confronter à de l'intensité, à des émotions, à peut-être de la tristesse, peut-être à certains moments de l'agressivité. Et là, pour ces gens-là, le désert, c'est fantastique parce que y a l'effet du groupe. Hein. Le groupe, c'est comme une caisse de résonance. C'est-à-dire que le travail de quelqu'un va stimuler quelqu'un d'autre. L'écoute de quelqu'un va entraîner quelqu'un d'autre. Donc, il y a un phénomène comme ça d'entraînement. Si le groupe est bien mené, évidemment, si ça se passe bien.
Alors quand vous dites qu'il s'agit de se questionner sur qu'est-ce que c'est être un homme au sens un être masculin, au fond ça présuppose qu'au départ leur problème c'est ça.
Que leur intérêt en tout cas c'est ça, qu'ils ont une problématique là autour. Leur problème évidemment, tout dépend de ce qu'on veut dire, ce qu'on appelle problème. C'est pas des gens qui sont malades autour de ça, mais c'est des gens qui ont un questionnement, qui ont vécu des choses peut-être dures, qui sont perdus autour du rapport aux femmes, autour du rapport aux enfants, autour du rapport au père. C'est des gens qui ont envie de remettre ça un petit peu sur l'établi, qui ont envie de rouvrir un peu le chantier et d'actualiser un peu, de mettre à jour quoi, là où ils en sont en tant qu'hommes.
Mmh. Mais selon vous, y a une crise de la masculinité ?
Oui, il y a une crise de la masculinité, selon moi, parce que si vous voulez, la masculinité, c'est pas quelque chose d'immuable, de stable. C'est une composition entre quelque chose de fixe, puis quelque chose qui est très mobile, qui est très souple. Alors, on pourrait dire que ce qu'il y a de fixe, c'est l'anatomie. On est homme anatomiquement, on est femme anatomiquement, on a des organes sexuels d'une certaine façon. On est aussi homme et femme endocrinologiquement, en quelque sorte. On a des hormones. Tout ça, c'est une partie à quoi on peut vraiment pas tellement toucher. Et puis, Il y a une autre partie, c'est la partie culturelle. Comment dans chaque culture, à chaque moment de l'histoire, on vit le fait d'être homme? Et ça, alors, c'est extrêmement mobile, dans le temps, mais aussi dans l'espace. Si vous voulez, au XVIIIe siècle, les hommes y portaient perruques. C'était ça qui était normal, on mettait de la poudre et des perruques. Actuellement, en Indonésie, les hommes, ils ont un habit qui ressemble à une robe. Mais ils se sentent très hommes, très virils avec ça. Il y a plein de pays où les femmes portent des pantalons, en Asie notamment. Donc, culturellement, il y a des façons très différentes de se vivre homme au cours du temps et dans l'espace aussi sur la Terre. Alors, quand on est en Europe, mettons, parce que ce qui nous concernait, c'était l'Europe et l'Amérique du Nord, il y avait des Canadiens, il y avait des Belges, des Suisses, des Français. Quand on est dans le monde occidental, disons, on est confronté à une certaine contradiction. Parce que d'une part, on a été élevé avec une conception de la masculinité, on pourrait y revenir. Et puis d'autre part, on est dans une vie actuellement qui ne correspond plus vraiment à ce qu'on a reçu dans notre éducation. On a des pressions, on a des sollicitations auxquelles on n'était pas vraiment préparé. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une certaine crise. C'est un peu ce que les femmes ont vécu à partir des années 70, comme ça, où elles ont vécu très fort une certaine crise de ce que c'était qu'être femme. Ben, les hommes, c'est venu un peu plus tard, parce qu'en en fait, ils étaient peut-être moins dans les problèmes que les femmes. Ils avaient peut-être le beau rôle. Donc, ils étaient moins poussés par la nécessité de se remettre en question que les femmes. Mais maintenant que les femmes ont vraiment bougé, et puis que la société continue à solliciter les hommes de façon très, très pressante et contradictoire, eh ben, c'est les hommes qui commencent à bouger.
Mais on pourrait imaginer aussi un voyage de femmes dans le désert s'interrogeant sur leur féminité.
Ah bien sûr, je pense que les femmes ont une longueur d'avance, elles ont fait des recherches sur ce que c'était qu'être femme depuis bien plus longtemps que les hommes.
Dans le dossier, Alexis Burgère, il est notamment mis en évidence, et vous l'avez cité vous-même, la question de la relation au père, la question des pères absents, du modèle du père absent.
Oui.
Vous pensez que c'est là, surtout, qu'il y a crise de la masculinité ?
Ben, je pense que c'est quelque chose d'assez spécifique aux hommes, parce que si les femmes se sont mises en mouvement, c'était souvent parce qu'elles avaient besoin de se démarquer des hommes, parce qu'il y avait des rapports très inégaux entre hommes et femmes. Donc, très vite, il s'est posé une espèce d'opposition entre les hommes et les femmes pour rééquilibrer les rôles. Quand les hommes se mettent en mouvement, ce qu'on voit souvent dans les groupes hommes, c'est qu'il y a très peu d'hostilité à l'égard des femmes, parce que leur problème, c'est pas tellement les femmes. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas très bien comment être homme. Finalement, on dit beaucoup que les hommes sont des machos, mais quand on interroge les hommes, on se rend compte que les hommes n'ont pas envie d'être des machos. Très souvent, hein, faut se méfier des généralités, mais là, je parle un peu comme ça, de façon générale. Mais très souvent, les hommes n'ont pas envie d'être machos, mais ne savent pas très bien comment être autrement. Et c'est là que je crois que la question du rapport au père est importante. Il y a eu ce fameux livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, qui a vraiment fait date, parce qu'il montrait que quand les garçons sont coupés de leur ascendance paternelle, ils se créent plein de problèmes dans leur maturation. Mmh. Et c'est un livre très, très important à ce niveau-là. Je pense que les garçons qui ont manqué de père, qui ont manqué de rapport au père, qui ont manqué de présence paternelle, sont dans un espèce de doute constant sur ce que c'est qu'être un homme.
Mmh. D'ailleurs, cette forme de thérapie s'inspire beaucoup du travail de Guy Corneau et des réseaux hommes.
Il y a une loyauté à Guy Corneau, parce que Guy Corneau a joué un rôle important par rapport à ça. Au niveau formel, bien sûr, ça change, tout ça évolue, c'est mobile. Il y a mille façons de faire ce travail sur la masculinité. Mais Guy Corneau, dans le monde francophone, comme Robert Bly dans le monde anglophone, c'est un petit peu des personnages qui ont marqué leur temps par certains livres qui ont été importants.
Mmh. François Keller, vous êtes donc l'auteur de ce film. Ce que Alexis Burgère nous raconte sur la masculinité, c'est aussi un sentiment que vous aviez avant d'entreprendre cette démarche, ce film ?
Oui, tout à fait. Donc, les références d'Alexis, ce livre « Iron Man » de Robert Bly, « Père manquant, fils manqué » m'ont beaucoup touché. J'ai grandi dans un monde de femmes également. Et Guy Corneau décrit très bien, à mon avis, comment le père manquant, qui peut être aussi présent, mais absorbé totalement par son travail, donc il n'est pas vraiment là dans toutes ses dimensions, amène l'enfant, le petit garçon, à se construire en fait par la négative. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire les femmes qui sont autour de lui, mais il ne sait pas vraiment qui il est. Et donc, forcément, le refus de la sensibilité, de l'émotionnel, etc. Donc, effectivement, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Il y a différentes formes. Robert Bly, on est plus dans le rituel de passage, comme ça. Essayer de retrouver des états, je vais pas dire de sauvages, mais des états où on peut retrouver à l'aide par exemple d'un mentor, ou des états peut-être liés à des sociétés plus archaïques, pour franchir ce passage et en fait pour finir se couper de la mer, quoi. Ce qui est une vraie difficulté, je crois, pour les hommes, quoi, en particulier qui ont grandi dans des mondes de femmes. Et comment aussi pour les femmes ne pas devenir envahissante quand elle est seule vis-à-vis de ces garçons, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, il y en a de plus en plus, qui ont beaucoup de questionnements par rapport à ces choses-là. Donc effectivement, la référence, sans que ce soit, je dirais, c'est à la base... Le livre de Corneau ou de Bly sont un petit peu des inspirations du projet. Et puis dans le projet, alors les hommes de ces réseaux ont paru être, on peut en parler tout à l'heure, un vivier très important d'hommes qui avaient déjà une habitude du travail sur eux-mêmes, du questionnement, et qui étaient évidemment, dans la perspective d'un film, des gens qui garantissaient certainement ce travail, quoi.
Oui, on voit qu'une partie des participants à cette aventure du souffle du désert sont des hommes qui avaient déjà entrepris un tel travail. Effectivement, on y reviendra. À propos de ce qui se passe dans ce film, au fond, on voit qu'il y a tout un programme de rituels, de discussions, de jeux, au fond, Alexis Burgère. Au fond, comment planifiez-vous ça? Vous faites vraiment le tour de toutes les facettes de la question masculine, la relation femme, la paternité, le modèle viril, etc.
Ben disons, il y a plusieurs angles d'approche. C'est vrai qu'une des choses, c'est de partir d'un certain catalogue, en quelque sorte, des points chauds que rencontrent les hommes. Alors, il y en a beaucoup. Il y a comment les hommes sont violents, par exemple, la violence masculine qui s'exprime dans la compétition, que les hommes sont toujours en train de se situer les uns par rapport aux autres par la compétition. Bon, ça, c'est un point. Il y a d'autres points par rapport à la sexualité, évidemment. Il y a différents points comme ça qui sont importants à parcourir si on veut explorer la masculinité. Mais dans un tel projet, évidemment, ce qui passe un peu avant le catalogue, c'est la dynamique d'un tel groupe. On se réunit, on se retrouve à Djerba, il y a des gens qui viennent de 4 pays, on se retrouve dans le désert, et puis tout à coup, il se met en place une certaine dynamique. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe ? Et c'est là que c'est assez important d'observer, d'écouter. Et par exemple, dans ce groupe-là, on s'est rendu compte assez rapidement que le groupe commençait à frémir, montrer certains signes d'insécurité et de malaise, avec aussi peut-être une tendance à rester sociale, comme sont les hommes. Vous savez, les hommes, quand ils se rendent compte, ils parlent d'ordinateur, ils parlent de voiture, ils parlent de politique, ils ne vont pas parler d'émotion, un truc comme ça, surtout pas, parce que ça inquiète. Alors, dans le cas de notre groupe, très rapidement, il s'est posé cette question-là, comment faire pour dépasser ce niveau, pour arriver à quelque chose qui était plus authentique, qui était dans le vif du sujet de la recherche. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est que j'ai proposé une série de dispositifs pour travailler l'agressivité masculine. Et l'agressivité masculine, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que finalement, les hommes ont peur de leur violence. Comme je disais tout à l'heure, ils n'aiment pas tellement le modèle du macho, ils n'aiment pas tellement le modèle du guerrier, enfin l'homme du XXe siècle qui fait des guerres, qui colonise, qui démolit la planète, etc. Ça n'a pas tellement la cote, hein. On le fait parce qu'on ne sait pas tellement comment être autrement, mais on aimerait bien faire autrement. Alors, on peut faire toute une série d'exercices, toute une série en fait, de choses qui sont de l'ordre du travail de groupe, hein, qui nous font explorer la violence autrement. Comment est-ce qu'on peut, entre hommes, déployer toute notre force, toute notre agressivité, d'une façon qui nous mène à rencontrer l'autre, plutôt qu'à le détruire, ou à être meilleur que lui, ou à faire de la compétition, ou de la critique, ou des choses comme ça. Et bon, il y a toutes sortes de techniques qui permettent d'explorer ça, mais ce qu'on se rend compte...
Mais vous n'êtes jamais sûr, au fond, que ça va marcher.
Ben non, on n'est jamais sûr de rien. Un groupe, c'est vivant. C'est un organisme vivant, un groupe. C'est comme une personne. Mais enfin, quand même, on a une expérience. Moi, j'en ai fait toute une série de ces groupes hommes pour moi-même. Mm-hmm. Puis je me suis bien rendu compte que c'est extraordinaire d'arriver à la fois être fort pleinement dans sa puissance, en quelque sorte, et puis en même temps, ne pas être dans la destruction, mm-hmm. être dans la rencontre. C'est mmh. fabuleux à vivre. Donc ça, je l'ai vécu, ça me donne une très grande confiance. Alors évidemment, je ne peux pas être absolument sûr de ce qui va se passer. En l'occurrence, on s'est rendu compte que les hommes sont entrés dans ces propositions de travail avec beaucoup de courage et de détermination, parce qu'ils avaient très peur au départ, mmh. mais que le résultat, c'était fantastique. Après une journée de travail sur cette thématique-là, on avait des hommes qui prenaient la parole les uns avec les autres, qui s'interpellaient pour dire « Écoute, j'ai un truc à régler avec toi, est-ce qu'on peut parler un moment ?» etc. qui réglaient leur compte. Il n'était plus question d'informatique, plus question de quel métier tu fais, de salaire, de voiture et tout ça. Tout à coup, on entrait dans un type de contact entre les hommes qui devenait personnel, émotionnel, sensible. Et c'était fantastique.
Ils étaient transformés.
C'est pas qu'ils étaient transformés, c'est qu'une porte s'était ouverte et ils ont commencé la transformation à partir de ce moment-là. À partir du moment où il n'y avait plus la peur de la violence, où il n'y avait plus la peur de la compétition, où il n'y avait plus cette gêne, je suis meilleur, je suis moins bon, je suis plus, je suis moins, etc. Les portes se sont ouvertes et la transformation a pu commencer à se faire. C'est-à-dire que les hommes étaient du coup sortis de ce small talk, comme on peut dire, et puis ils entraient vraiment dans une curiosité, dans une envie d'aller plus loin.
On vous retrouve dans quelques instants, Alexis Burgère. De même que vous, François Collère, on va évoquer notamment la dimension cinématographique de cette aventure. On fait d'abord un point sur le trafic.
Infotrafic RSR
avec Café Kikodoro en portion sachet Tialda.
L'autoroute Lausanne-Martigny sera ponctuellement fermée à la circulation dans les deux sens aux abords du tunnel de Glion. Des travaux à l'explosif seront effectués à cet endroit à 17h45 ainsi qu'à 19h15. Marc Lavoine.
La première, recto verso.
On a les sentiments très mélangés. On parle avec les plantes et les bébés. Parlez-nous gentiment, on aime assez. On a le sixième sens bien développé.
Paradis, on a le placebo du beau pays.
Voilà une chanson qui tombe bien dans la conversation d'aujourd'hui. Les hommes sont des femmes comme les autres. Alexis Burgère, ça vous fait réagir peut-être ?
Oui, ça me fait rire. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que je ne crois pas qu'on est pareil les hommes et les femmes. On a pu penser ça à une époque où finalement on ne voulait plus de cette différence de statut où les hommes étaient vraiment très dominants par rapport aux femmes. Et puis on a pensé qu'on était un peu tous pareils. Mais ce n'est pas vrai, on n'est quand même pas tous pareils. Et si au niveau social, les hommes ont encore plus de pouvoir que les femmes, malheureusement c'est encore comme ça, au plan de l'identité, comment on se sent homme ou comment on se sent femme, je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce que comme disait François tout à l'heure, l'identité masculine se construit souvent par opposition. Un homme, il sait qu'il est homme parce qu'il n'est pas femme. C'est un mec, c'est pas une nana. Un homme, c'est pas non plus un homosexuel. Un homme, c'est pas non plus un enfant. Il y a des notions comme ça chez les hommes qui sont en fait des définitions par la négative. C'est pas tellement qu'on sait ce que c'est qu'être un homme, c'est qu'on sait ce que c'est de pas être un homme. Et ça vient probablement de l'histoire de l'enfance où les garçons grandissent avec leur mère, comme les filles d'ailleurs. Et par exemple, si on pense à la sexualité, un petit garçon qui est dans le bain et puis qui regarde son zizi, c'est souvent avec sa mère qui parle de ça en premier. Et ses premières érections, c'est sa mère qui lui dit ce que c'est. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il s'étonne, etc. Et sa mère lui donne une explication. Et sa mère essaye de l'aider à comprendre et puis à aimer son corps comme il est. Mais c'est une vision féminine de la sexualité masculine qui passe en premier. Et quand on parlait tout à l'heure de père manquant, c'est des choses concrètes comme ça qui parfois manquent. C'est que, est-ce que les pères vont parler avec leurs garçons de ce que c'est qu'avoir un corps de garçon et un sexe de garçon et une érection de garçon? Ou est-ce que le garçon va apprendre ce que c'est que la sexualité masculine par le regard des femmes et après coup, toujours demander une confirmation aux femmes? Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été un bon amant? Mais ils ne vont pas demander à des copains est-ce que je suis un bon amant parce que ça s'est passé comme ceci, comme cela. Et là, les femmes sont beaucoup plus fortes, en fait, parce qu'elles ont découvert, elles, leur corps et peut-être le premier regard sur la sexualité par un regard qui vient de leur même sexe. Et elles ont beaucoup plus de facilité à parler avec leurs copines, etc., d'exemples de ce qu'elles ont vécu. Et c'est là que les hommes, ils font preuve d'une certaine fragilité qui malheureusement font souvent qu'ils vont surcompenser. Alors, ils vont se rattraper en roulant les mécaniques, en insistant sur le muscle, sur la voiture, etc. Puis ça, c'est un peu dommage, parce qu'il y a toute une sensibilité chez les hommes aussi.
Le souffle du désert, c'est donc le titre de ce film que nous évoquons ce soir dans Recto Verso, en votre compagnie Alexis Burgère et en la vôtre, François Collère. Je vais me tourner maintenant un petit peu vers vous. On va évoquer maintenant la dimension cinématographique de cette aventure avant de revenir peut-être sur toutes ces questions à propos de la masculinité. François Collère, au fond, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à avoir envie de faire ce film ?
Bon, les causes sont multiples. Quand on porte un projet pendant plus de 2 ans et demi... Au départ, bon, j'ai donc grandi dans un monde de femmes. Je me suis questionné. J'ai d'ailleurs jamais tellement adhéré à ce modèle masculin qu'on voulait bien nous transmettre. L'armée, enfin, il y a des tas d'éléments comme ça qui ont fait que j'ai toujours un questionnement sur. J'ai jamais tellement adhéré à la grande claque dans le dos sous la douche ou ce type de comportement comme ça entre hommes. Donc, effectivement, c'est peut-être lié à une sensibilité, je ne sais pas, j'en sais pas exactement l'origine. Toujours est-il que j'ai été très touché donc, dans les années 90 quand ce livre de Corneau, mais d'autres livres aussi, j'avais lu ce livre d'Elisabeth Badin, Terre XY, auquel je pensais quand Alexis parlait tout à l'heure. Elle parle aussi, entre parenthèses, de la différenciation qui se fait chronomosiquement très tardive entre l'homme et la femme, qui est aussi peut-être une des causes de ce que tu évoquais peut-être tout à l'heure. Mais enfin, bon, donc, il y a tout un contexte qui a fait que, au passage, deux projets de long-métrage de fiction sur la paternité qui ont échoué de justesse, qui ont fait que depuis pas mal d'années, je porte en fait cette thématique en moi.
Ça veut dire que c'est l'aspect paternité qui vous interpelle le plus ? Vous êtes d'ailleurs jeune père, je crois.
Oui, ben voilà, j'ai porté ce film pendant que ma compagne portait cet enfant. C'est assez étrange. D'ailleurs, il y a eu un article de presse qui l'a souligné, ce rapport-là, assez inconscient jusque-là, qui était le fait que j'ai eu la gestation de ce projet correspond exactement, il a 2 ans et demi maintenant, à la gestation, puis à ses premières années. Ça correspond à peu près, puisqu'on a fini le film bientôt, il y a bientôt 6 mois, et qu'on a donc attendu de le sortir ici en Suisse, au Festival Vision du Réel, Festival Documentaire, à Nyon, avec une sortie en parallèle au Québec, puisqu'il est coproduit par l'Office national du film du Canada.
Alors ce voyage qui est raconté dans le film de 13 hommes qui passent 10 jours dans le désert pour évoquer leur masculinité, vous-même vous aviez participé à un voyage similaire un peu avant. En tant que participant, qu'est-ce que ça vous avait apporté ?
Voilà, mais c'est la grande question en fait. Évidemment, faire ce métier, ça transforme sa vie. C'est à chaque fois, je suis interpellé dans mon existence. Et là, en particulier, parce que je savais que j'allais demander à ces hommes énormément, dévoiler vraiment une intimité, et il s'agissait de savoir comment je pouvais trouver une légitimité à cette demande. Donc, je me suis dit que sans être, si vous voulez, le réalisateur qui irait 6 mois s'enfermer dans une prison s'il fait un film sur la tôle, sur la prison, mais parce qu'il y a aussi des excès, si vous voulez, dans ce sens-là. Mais je crois effectivement que j'avais besoin de faire le processus moi-même et puis de pouvoir donc rencontrer, si vous voulez, ces hommes à travers en m'exposant. En fait. Et donc, je l'ai fait. J'avais déjà décidé que le film se ferait dans le désert. J'avais déjà décidé qu'il s'y ferait avec des hommes de 4 nationalités, puisque, Alexis parlait de l'importance culturelle. Là, on est en Occident, donc il n'y a pas des écarts aussi grands qu'entre le comportement masculin, je veux dire, entre l'Indonésie et la Suisse. Mais enfin, je savais que c'était intéressant quand même un plus que d'avoir peut-être différentes cultures francophones.
Ce qu'on peut préciser, c'est qu'effectivement, ce n'était pas un voyage qui était prévu et auquel vous ajoutez votre caméra, c'est un projet commun.
Voilà.
Ce voyage qui est filmé dans le souffle du désert.
Voilà.
Mais je reviens à ce que vous avez vécu vous-même.
Oui, alors bon, c'était très intéressant. C'était une autre dynamique. Alexis parlait de la dynamique. C'est vrai que tu disais avant, Alexis, on n'est jamais sûr. Alors d'autant plus quand on fait un film comme ça. Mais là, moi, je n'étais pas du tout sûr ce qui allait se passer. Il y a eu une interaction entre ces hommes qui était beaucoup plus, dans le conflictuel. En l'occurrence, dans ce qu'on a vécu dans le film, dans notre voyage avec Alexis, je pense qu'il y avait, somme toute, peu de conflits. Il y avait par contre une énorme tendresse qui s'est développée, oui. Une grande solidarité.
Oui. Et qui était une surprise pour les participants ?
Au départ, ils ne se connaissent pas ou presque pas. Donc, il y a, je crois, une énergie qui se crée. Et puis, non, elle ne l'était pas forcément, parce que c'est des hommes qui ont quand même justement développé au départ. Donc, c'est quand même des candidats particuliers. On a fait une sélection, disons, quand même assez pointue. On peut en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que, donc je pense qu'ils n'étaient pas forcément surpris, mais il y a quand même de telles différences entre personnes. C'est-à-dire qu'on va d'hommes qui ont 29 ans jusqu'à 70 ans, de cuisiniers au niveau social aussi, il y a des cuisiniers, il y a des médecins, il y a différentes. Donc c'est des gens qui ont des points de vue, les pays aussi divers. Donc il y a forcément des interactions qui peuvent déboucher sur des conflits dans des conditions en plus aussi extrêmes. Et en l'occurrence, il y en a eu quelques-uns, mais très peu, on était surpris. Et ça a été, j'étais presque même des fois un peu frustré, cette envie d'un petit peu de sensationnel, inconsciente, même si je ne veux pas en avoir le nom. J'en étais presque frustré, mais elle a été compensée largement par une immense tendresse entre ces hommes qui s'est développée au fil de ce voyage.
La place de la caméra dans un voyage comme celui-là, peut-être d'abord Alexis Burgère, vous êtes habitué plutôt à travailler dans la discrétion,
oui,
j'imagine, avec les personnes que vous accompagnez. C'est dérangeant, ça peut parfois aider.
C'est en tout cas quelque chose d'important. Parce que c'est vrai qu'en tant que psy, psychiatre, psychothérapeute, on travaille avec le secret médical, avec la confidentialité, on crée des dispositifs très protecteurs. Et puis là, on sait qu'a priori, les choses vont être montrées. Donc c'est vraiment une volonté au départ qui était basée sur le fait que, en tout cas moi, je trouvais que ça valait tellement la peine de montrer ce travail, qui est un travail extraordinaire et qui est surprenant. Facile, utile, nuisible. Je ne sais pas, à partir du moment où on était décidé à le faire, on s'est arrangé pour que ça soit favorable, la caméra. C'est-à-dire que François avait engagé une équipe technique qui était composée de gens sensibles, qui ont accepté de se mettre dans le groupe un moment pour comprendre un petit peu les choses. Donc il y a eu des liens qui se sont établis pour que la caméra soit pas trop gênante. Il y a aussi eu des contrats de confiance qui ont été faits sur ce qui allait être montré, ce qui allait pas être montré. Il y a toutes sortes d'ajustements qui ont dû se mettre en place au fil du travail. Bon, les hommes se sont adaptés. C'est clair que peut-être certaines choses sont pas sorties devant les caméras, sont sorties au moment où la caméra filmait autre chose. Mais les hommes se sont adaptés parce qu'ils savaient très très bien au départ de quoi il s'agissait. Et ils ont entendu parler du projet en sachant que ce serait un film. Donc les gens qui n'avaient pas envie d'être filmés ne sont même pas présentés. Voilà. Donc,
mais ce n'est pas moins authentique.
Ah, ce n'est pas moins authentique du tout. Dans la mesure où on respecte un certain nombre de choses, et ça avec François ça a très très bien joué, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas du tout de faire... de faire des acteurs de ces hommes. Il ne s'agit pas du tout de leur dire « Maintenant, vous jouez tel ou tel truc. » Absolument pas. Il s'agissait de développer une dynamique de travail très intense et là-dessus, de greffer une équipe technique qui captait en fait les moments sensibles, les moments forts, etc. Mais à aucun moment, la nécessité, mettons, d'avoir une belle image a primé sur ce que les hommes vivaient. À aucun moment.
François Collère.
Oui, moi je voulais dire que, évidemment, la question de demander à des hommes une telle intimité et filmer cette intimité, évidemment, on se questionne en tant que cinéaste. Je crois qu'on est forcément un peu voyeur, mais il s'agit de savoir avec quelle motivation. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, on peut être bon ou mauvais voyeur, dans la mesure où, en fait, si on est un mauvais voyeur, c'est que On a simplement peut-être aucune relation avec ces hommes. On a peut-être une intention qui n'est pas forcément, qui est de les coincer quelque part. En l'occurrence, j'ai réalisé que cette question du voyeurisme, que moi j'assume en tant que réalisateur, se dissipait passablement lors de l'instauration de la relation de confiance avec ces hommes, qui était très grande, qui s'est construite en amont. Et qui amène ces hommes avec dans le cadre. Effectivement, on a essayé de créer un cadre dans lequel, je vous donne un exemple, ils pouvaient renoncer à une scène, mais le dire tout de suite. Moi, je ne peux pas prendre le risque vis-à-vis des différents coproducteurs. Il y a Arte, il y a la télévision, il y a l'État, enfin, l'Office national du film du Canada, d'avoir un participant qui dit à la fin du trek, je ne veux plus être dans ce film. Par contre, laisser la possibilité à chacun de revenir sur telle ou telle scène de façon plus ou moins le jour même ou juste après le tournage, ça, on l'a fait. Et puis, ça m'est arrivé donc de refaire certaines choses. Évidemment, il ne s'agit pas... Là, on n'est pas dans un rapport de fiction. Pour moi aussi, c'était le but de ne pas faire un film thérapeutique, mais d'essayer à tout prix de ne pas faire un film thérapeutique, mais d'utiliser le contexte émotionnel créé par le travail d'Alexis pour favoriser également des rencontres avec ces hommes, avec la caméra et ces hommes. Et je dirais que le cadre dans lequel... on travaillait, a permis à ces hommes à se trouver dans une grande confiance et nous a aidés, disons, à passer peut-être quasi inaperçu, parce que c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire à la fin du compte.
Il y a des images quand même assez étonnantes, hein, qui ont été relevées d'ailleurs dans les critiques à propos du film, des images de ces hommes nus, parlant de leurs zizi, parlant de choses très intimes, masturbation... Ils n'étaient pas gênés en voyant les images après.
Là, il y a une anecdote intéressante aussi, c'est que en fait, on avait censuré. Parce que moi, au départ, je me disais, on ne va pas censurer ce qui pourrait apparaître, surgir de ces expériences, de cette expérience. Donc, on va simplement, c'est le cadre dont je parlais avant, essayer de leur donner la possibilité de limiter une chose qu'ils auraient faite ou dite. Et là, en l'occurrence, on s'est quand même censuré en disant on n'a aucun intérêt à filmer les sexes de ces hommes, donc on va s'arrêter à la ceinture, quoi. On leur a dit clairement. Et puis, c'est en fait certains diffuseurs qui nous ont dit lors de Vision qu'ils avaient, alors que le film parle, je crois, avec beaucoup de naturel et sans tabou, les hommes se livrent, et c'est ce qui est, disons, reconnu par la presse, qui est abondante au sujet de ce film, nous ont dit, mais là, il y a comme une censure, on trouve un truc un peu, on trouve que ces scènes sont un petit peu artificielles. Alors, on a repris certains accidents qui étaient dans les rushs, où on voit effectivement de loin... les hommes avec leur sexe, mais uniquement et les rajoutant. Et certains ont dit, on leur a demandé effectivement de savoir s'ils étaient d'accord de rajouter ces scènes. Et ils nous ont dit qu'ils étaient absolument, qu'on pouvait faire ce qu'ils voulaient. Ils ont même un qui a dit, j'espère que c'est un gros plan, pour vous dire à quel point la confiance, disons, réciproque s'est développée.
Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Alexis Burgin ?
Oui, une autre anecdote, un participant qui parlait de choses très personnelles concernant sa famille a demandé qu'on retire tous les bouts où il nommait ses enfants, par exemple, parce qu'il pouvait assumer avec plaisir de montrer des choses de lui, mais il ne voulait pas impliquer ses enfants. Ce qui était... Ça faisait partie de ce que je disais tout à l'heure, des contrats de confiance. Quand les hommes ont senti qu'ils étaient respectés comme ça, là, la caméra a cessé de devenir un problème, vraiment. Parce qu'ils voyaient bien qu'on s'intéressait à leur démarche, à leur introspection, et qu'on n'essayait pas de les manipuler pour tirer d'eux quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Une autre chose qui était importante, c'est que quand on travaille avec l'introspection, justement, ce qui est le propre de la psychothérapie ou du développement personnel, on arrive à des choses qui ne sont pas forcément très spectaculaires. Quelqu'un qui est en train de faire une prise de conscience, vu de l'extérieur, ce n'est pas grand-chose. C'est de l'intérieur que c'est important. Mmh. Et ça a quand même nécessité un travail spécifique que François et moi, on a dû faire avant le film, de réfléchir vraiment très précisément sur cette question-là. Comment on peut mettre ensemble une logique qui vise à favoriser une introspection et puis une logique qui vise à favoriser une vision. Et ça, c'était un gros travail, il ne faut pas le négliger. C'était quelque chose de préalable qui nous a amené justement à élaborer ces contrats de confiance, qui m'a amené, par exemple, à imaginer des dispositifs que je n'aurais pas forcément mis en place si ça avait été un groupe sans caméra, comme je peux faire des groupes sans caméra.
Quand t'es dans le désert, c'est Jean-Patrick Capdevielle.
Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown cyniste plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, là, 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 tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y'a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là, 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 tu te demandes à qui ça sert les yeux bandés.
vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit, t'as tenu combien de jours? J'ai répondu, bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps.
Dans le désert, c'est là que se retrouvent 13 hommes dans une aventure, dans une exploration de leur masculinité. C'est le sujet de ce film que nous évoquons ce soir dans Recto Verso, le souffle du désert. Il y a quelque chose qui apparaît plus particulièrement, c'est l'émotion des hommes qui pleurent, qui retrouvent le sens de l'émotion. J'ai presque envie de dire, demander à Alexis Burgère, on en est encore là? Pour les hommes, à ne pas savoir exprimer des émotions.
Eh ben, c'est clair qu'on en est encore là. C'est très dur pour les hommes de pleurer. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était quelque chose de galère. J'ai passé plus de 15 ans sans pleurer. Et si j'ai retrouvé ça, c'est à travers un travail, pour moi, thérapeutique. Les hommes ont beaucoup de peine à exprimer leurs émotions. Ils ont beaucoup de peine à se déterminer par rapport à leurs émotions aussi. À prendre des décisions, à faire des choix qui tiennent compte de leurs émotions. Ça, je pense que c'est une difficulté spécifique des hommes, oui.
C'est la première étape pour vous?
Je ne sais pas si c'est une première étape, mais en tout cas, on ne récupère pas notre sensibilité sans ça. Et là, je crois que le film, le travail de François était très important là-dessus, parce que c'est très dur de montrer ça d'une façon qui soit pertinente et sensible. C'est-à-dire que l'émotion suscitée par un film d'Hollywood, ça bien sûr, ça on connaît, quoi, autour du suspense, la peur, etc., ça on connaît. Mais une émotion qui se base sur une sensibilité, ça chez les hommes, c'est quelque chose de délicat, quoi. Parce que justement, on a l'impression que c'est féminin, alors on n'a pas envie d'être une femme parce qu'on veut être un homme, puis on se définit par la négative. Alors on a un peu la crainte que si on est trop triste ou qu'on donne de la place à notre émotion, on ne soit plus vraiment masculin.
On voit un des participants brusquement en larmes, de façon très très émotive, François Coller. Ça a été difficile à gérer, ça, d'un point de vue de cinéaste?
Oui, donc c'est la scène à laquelle vous faites allusion pourrait être celle qui est le plus difficile au niveau justement du risque de voyeurisme. En l'occurrence, c'est la scène aussi où il y a un champ contre champ en fait entre Alexis et puis ce participant. Une interaction assez forte et où Alexis lui dit en fait c'est drôle que tu exprimes l'envie de pleurer alors que tu souris en souriant, et ça crée en fait justement c'est le déclenchement de cette décharge émotionnelle de cet homme. Et en ce qui me concerne, je trouvais que la justification que cette scène reste dans le film était liée à en fait au chemin que cet homme François Emmanuel dans le film fait. C'est-à-dire qu'il comprend que ce masque qu'il a toujours, on est tous, en tout cas une bonne partie de cette gente masculine, a beaucoup de peine à baisser la garde, donc se réfugie toujours derrière ce masque de virilité. Et là, en l'occurrence, pour lui, c'est ce masque du bout en train, si vous voulez, qui cache en fait... Une immense souffrance et qui met là, on le voit au début du film d'ailleurs, jeter son acte de naissance en disant « N'ayez crainte, c'est une copie dans le feu ». Donc on sent ce côté de bout en train de ce personnage et tout d'un coup, il réalise en fait ce masque qu'il porte pour essayer de ne pas montrer en fait qui il est vraiment. Et ça, c'est très beau parce qu'on sent le chemin qu'il a fait. Mmh. Ça, c'est d'ailleurs la question aussi au niveau dramatique d'un film comme celui-là. C'est qu'on sait au départ, en écrivant un film comme ça, qu'on va être sur l'émotionnel et non pas sur le dramatique. On ne peut pas dire les hommes vont partir d'un point A, finir dans un point B, avec un cercle, un arc très précis qu'on peut prédéfinir. Donc, mais on sait qu'il y aura peut-être beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça qu'avec Alexis, on figure d'ailleurs les deux au générique sous un titre qui s'appelle un peu pompeusement « Conception du travail de groupe ». On a essayé de rendre visuel ce travail d'Alexis et de travailler, par exemple, sur rendre, par exemple, à travers les objectifs, comment on peut définir positivement ou négativement c'est l'objectif avec lequel on vient dans ce désert en tant qu'homme. Et puis, une scène de la fin du film qui s'appelle L'engagement. Qu'est-ce qu'on a, on a retiré de l'expérience vécue et à quoi on s'engage par rapport à la, à, au futur. Mais on peut dire, comme le dit à la fin le film, on peut n'espérer que ces hommes continuent ce chemin. Dans la solitude, bien sûr, mais un, peut-être un peu moins dans l'isolement, comme on le dit dans le commentaire, dans la narration finale, et retrouver ce souffle repris au désert, c'est-à-dire retrouver peut-être, dans, en étant inspiré, une fois encore, par cette expérience vécue dans le désert.
Je vois que vous auriez beaucoup encore à nous raconter et à nous dire à ce sujet. Malheureusement, nous, nous sommes tout près de la fin de cette émission. Juste quelques mots encore, François Coller, sur le parcours de ce film, à voir dès ce soir à Genève et à Lausanne. Quel parcours
autrement ? Oui, donc le film sort dans les salles romandes. Il est sorti en avant-première hier à Puy. Il y a avec des débats qui sont organisés à chaque fois. On a un site internet qui s'appelle www.lesouffledudésert.com qui montre bien les débats qui sont organisés, les heures de projection. Il sort ce soir donc à Genève, au CAC Voltaire. Il sortira dans les villes de Suisse romande, dans le canton de Neuchâtel, au début juin. Il sort évidemment plus tard à la télévision. Sur la fin de cette année, sur Arte aussi, certainement au début 2006, et au Québec en parallèle, dans les salles. Voilà.
Un beau parcours donc, François Coller, Alexis Burgère, merci. On écoute Muddy Waters, Manish Boy.
Oh, yeah. La première, Recto Verso. Oh, yeah. Everything. Everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
Voilà le célèbre Muddy Waters qu'on doit quitter pour un point sur le trafic.
Infotrafic RSR
avec Café Kikodoro en portion sachet Tialda.
Les temps d'attente au tunnel de Glion sont les suivants. 20 minutes en direction de Martigny, 10 minutes en direction de Lausanne. La galerie sera ponctuellement fermée à la circulation dans les deux sens à 19h10 environ en raison de travaux à l'explosif.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Voilà, donc je remercie encore nos deux invités ce soir, François Colère et Alexis Burgère. Le film Le souffle du désert à voir dès ce soir à Genève et Lausanne. Genève, CAC Voltaire, Lausanne, le City Puyi. Je précise encore qu'Alexis Burgère repart dans le désert l'automne prochain, donc ceux qui seraient intéressés peuvent trouver des renseignements sur son site internet surladune.ch. Demain, nous aurons encore un homme invité dans Recto Verso. Ce sera le témoignage d'un homme qui a pu difficilement se sortir de l'alcoolisme et qui le raconte dans un beau livre, Le Dernier pour la route. Il s'appelle Hervé Chabalier. D'ici là, bonne soirée et à demain.
Recto Verso, avec le magazine Bilan, le bimensuel de l'économie.
L'heure, avec la loterie romande et son billet à gratter, jour de fête.